Vous écoutez, on lit pour vous.
9 phrases à arrêter de dire au petit garçon. Un texte de Christian Letendre, paru le 11 juin 2025 dans Urbania. On n'a jamais été aussi bien outillé pour éduquer nos garçons et s'assurer qu'ils deviennent des hommes sensibles, honnêtes et bienveillants. Pourtant, un petit tour sur TikTok suffit pour réaliser que manifestement, beaucoup de parents n'ont jamais sorti ces outils de leur coffre. C'est pour ça qu'on vous a concocté une liste de phrases à ne plus dire aux petits garçons. Certaines d'entre elles vous sembleront peut-être aller de soi, mais un petit rappel n'a jamais fait de mal à personne. Mise en garde, si vous êtes un disciple d'Andrew Tate et de sa bande de mâles alpha, il se pourrait que vous soyez un peu confronté par ce qui va suivre. Hashtag sorry not sorry. Un gars, ça pleure pas. Ça ou toute autre variante du genre « t'es trop sensible, reviens-en » ou « fais un homme de toi ». On met beaucoup de l'avant l'idée voulant que les gars soient tous des toughs qui ne devraient jamais montrer leurs émotions. Mais les réprimer signifie souvent qu'elles risquent de ressortir plus tard sous une forme beaucoup plus dommageable. Alors, braillez, cher garçon. Roger Tabra l'a écrit en 1998 et c'est encore vrai aujourd'hui. Un homme, ça pleure aussi. Tu lances comme une fille. Ah, l'éternelle guerre des sexes. Depuis quand agir comme une fille est synonyme de faiblesse, d'inaptitude, voire d'infériorité? Utiliser cette expression pour rabaisser un garçon est le meilleur moyen de s'assurer qu'il se croit supérieur aux femmes plus tard. Attention, ça ne veut pas dire de remplacer « comme une fille » par « comme un loser » ou « comme une marde ». Idéalement, évitez d'insulter vos enfants, s'il vous plaît. Tu feras un bon pompier, ingénieur, patron, plus tard. Un autre biais lié au sexe. Apparemment, les hommes sont faits pour diriger, résoudre des problèmes et travailler manuellement, et les femmes pour assister, éduquer et prendre soin. Peut-on laisser les enfants décider de ce qui les intéresse? Bon, Yen. En 2025, le moment est venu de ne plus laisser notre conception du genre avoir une quelconque influence sur le marché du travail. En plus, 88,1% des États dans le monde sont dirigés par des hommes et la planète ne s'est jamais mieux portée, non? Non. As-tu une amoureuse? Avant que vous ne lui posiez la question, votre petit Liam considère Alice comme quelqu'un avec qui il aime bien jouer à la garderie. Mais maintenant, grâce à vous, il risque de croire que bien s'entendre avec une fille implique nécessairement plus que de la simple amitié. À long terme, ça pourrait déformer sa conception des relations hommes-femmes ou lui faire internaliser que les seules relations amoureuses possibles sont hétérosexuelles. Bref, Liam a juste prêté son camion préféré à Alice. Attendez donc une couple d'années avant d'envoyer les faire part. Allez, donne-moi un bisou! Les gestes d'affection ne devraient jamais être imposés à un enfant. C'est valide pour les filles, mais l'apprentissage du consentement est autrement plus important chez les garçons. Obliger votre fils à vous donner des bisous équivaut à l'autoriser à faire la même chose dans ses relations futures. Allez-y plutôt avec la variante « Veux-tu me donner un bisou ?» moins directive. De toute façon, votre fils vient probablement de manger une poignée de sable ou de frencher le chien. Le voulez-vous tant que ça, votre bisou ? Le rose, c'est pour les filles. Non. Pas plus que les cheveux longs, les jupes ou le vernis à ongles à l'autre jet du temple. D'ailleurs, dans un passé pas si lointain, Les petits garçons portaient des robes durant leurs premières années de vie, et l'attribution du rose pour les filles et du bleu pour les garçons daterait seulement des années 1940 aux États-Unis. C'est à se demander comment les gens annonçaient le sexe de leur bébé dans les « gender reveals » médiévaux. « Wow, t'as des gros muscles! » « D'accord, » dit du temple. « Rebonjour. » Récolte beaucoup de clics avec ses réels où il court en chest. Mais les garçons devraient aussi aspirer à autre chose qu'avoir de gros biceps et beaucoup de likes. Montrez-leur que leur intelligence, leur créativité et leur sensibilité méritent autant d'être valorisés. Comme ça, ils écouteront peut-être des podcasts de NPR en s'entraînant au gym plus tard. C'est ben les gars, ça. Boys will be boys, comme ils disent au pays de Donald. Parce que des petits gars, ça se chamaille, ça se picosse et ça s'insulte. Tout le monde sait ça. Sauf qu'une telle mentalité équivaut à les déresponsabiliser de leur comportement nocif et agressif sous prétexte que c'est dans leur ADN. Ça ne l'est pas. Et votre quotidien n'a pas besoin de ressembler à un gala de la UFC. Peux-tu m'apporter cette paire de ciseaux en courant le plus vite que tu peux, s'il te plaît? Ça, c'est à ne pas dire à un jeune garçon. Et à personne, en fait. C'était 9 phrases à arrêter de dire aux petits garçons, un texte de Christian Letendre, paru le 11 juin 2025 dans Urbania.
Mythe ou réalité? Déchets et matières recyclables. Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 30 juin 2025 dans la presse. Le Québec génère énormément de déchets et de matières recyclables. Tellement qu'il a raté de beaucoup son objectif de réduction, démontre le bilan de l'année 2023 publié le 17 juin par Recyc Québec. Mais qu'advient-il de nos matières résiduelles? Sauriez-vous départager les 6 mythes ou réalité? Nos matières recyclables sont expédiées à l'étranger. Mythe. C'était vrai il y a une dizaine d'années, mais la tendance s'est inversée depuis. En 2023, 58% des matières sortant des centres de tri pour être recyclées ont été traitées au Québec, alors qu'en 2015, 61% étaient expédiées à l'étranger. La Société québécoise de récupération et de recyclage, Recyc Québec, attribue cette amélioration à la fermeture des marchés asiatiques, où même les matières recyclables mal triées se vendaient à bon prix et à une meilleure communication entre les centres de tri et les recycleurs québécois. Le verre est peu recyclé. Réalité. C'est encore vrai. Mais les choses commencent à changer. Seulement 47% du verre généré par les ménages et entreprises du Québec a été envoyé à des recycleurs en 2023. Mais il s'agit d'une hausse de 31% par rapport à 2021. L'essentiel du verre est donc encore envoyé dans les sites d'enfouissement où il sert de matière de recouvrement journalier ou pour l'aménagement de chemins d'accès. Cet usage a diminué de 17% en 2023, ce qui concorde avec l'instauration cette année-là d'une redevance de 10 $ la tonne sur les matières utilisées à ces fins. Le verre contamine les autres matières du bac de récupération. Mythe. Le verre est généralement la première matière retirée dans les centres de tri et son poids rend l'opération assez simple et efficace. Ce sont plutôt les autres matières qui se contaminent entre elles en se mélangeant, explique Recyc Québec. Par exemple, il arrive que des contenants de plastique écrasés se retrouvent dans un ballot de carton ou inversement. Le grand nombre de types de plastiques différents est aussi un enjeu, ce qui accentue le risque qu'un contenant se retrouve dans le mauvais ballot et qu'il soit rejeté chez le recycleur qui ne traite pas ce type de plastique. Le plastique est peu recyclé. Réalité. Seulement 20% des matières plastiques générées par les ménages et entreprises du Québec, ce qui combine ce qui est jeté aux ordures et ce qui est mis au bac de récupération, sont acheminées aux fins de recyclage. Et 17% de cela est destiné à la valorisation énergétique. Cette réalité s'explique, entre autres, par le fait que beaucoup de plastique n'était pas accepté dans la collecte sélective en 2023. Mais cela a changé avec la réforme entrée en vigueur en 2025. En revanche, puisque tous les plastiques sont désormais acceptés dans le bac, le taux de rejet pourrait augmenter. Les résidus de construction sont difficilement recyclables. Mythe. Le bois représente à lui seul 60% des matières du secteur de la construction, rénovation et démolition qui sont envoyées aux ordures, alors que les débouchés possibles sont nombreux, comme la fabrication de panneaux de particules, mélamine. Pour le bois de moins bonne qualité, la valorisation énergétique serait une meilleure option que l'enfouissement. Les retailles de panneaux de gypse peuvent être introduites dans la fabrication de panneaux neufs. Seuls les bardeaux d'asphalte ont moins de débouchés, étant utilisés pour de la valorisation énergétique ou l'aménagement de chemins d'accès dans des sites d'enfouissement. Les contenants consignés sont fortement récupérés. Mythe. Le taux de retour des bouteilles de plastique consignées est en chute constante depuis une dizaine d'années, tout comme celui des bouteilles de verre à usage unique, claire ou verte. Le taux de retour des canettes d'aluminium, lui, enregistre une baisse beaucoup plus faible de 2 points de pourcentage. Pendant ce temps, le taux de retour des bouteilles de bière brune à remplissage multiple se maintient autour de 95%, mais leur utilisation par l'industrie brassicole est en chute libre. Les données de 2023 ne reflètent pas la réforme de la consigne entrée en vigueur en novembre 2023. C'était « Mythe ou réalité, déchets et matières recyclables », un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 30 juin 2025 dans la presse.
Une molécule extraite du bouleau pourrait bloquer le VIH, l'Ebola et la dengue. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 3 juillet 2025 dans la presse. Deux molécules qu'on retrouve dans différentes plantes, dont une extraite du bouleau, pourrait empêcher des virus aussi redoutables que le VIH, l'Ebola et la fièvre dengue d'infecter l'organisme, démontrent des travaux réalisés au Québec. Cela pourrait un jour mener au développement de traitements prophylactiques antiviraux à large spectre qui seraient administrés aux populations à risque d'être infectées. Ces molécules-là s'attachent à un récepteur sur les cellules du système immunitaire et vont bloquer la voie d'entrée du VIH. Mais c'est une voie d'entrée qui est également utilisée par le virus Ebola, par le SRAS-CoV-2 et par le virus de la dengue, a résumé le professeur Charles Gauthier, de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. C'est vraiment un récepteur principal. Le professeur Gauthier et ses collègues se sont intéressés à l'acide bétulinique, qu'on retrouve notamment dans l'écorce du bouleau et dans le champignon chaga, et à l'acide échinocystique qui a été trouvé dans le tournesol et d'autres plantes. Les scientifiques ont utilisé une méthodologie unique pour modifier ces molécules en y ajoutant un sucre, le Lewis X, ce qui a donné naissance à de nouveaux composés chimériques qui n'avaient jamais auparavant été décrits dans la littérature scientifique, les saponines. Ces composés présentent plusieurs avantages par rapport aux molécules originales, notamment d'être beaucoup plus solubles dans l'eau, de se dissoudre relativement facilement dans des milieux biologiques et, ce qui est loin d'être anodin, d'être sans danger pour les cellules humaines. Nos résultats suggèrent que ces saponines sont prometteuses pour prévenir les premiers stades de l'infection par le VIH1, tout en étant relativement non toxiques in vivo, écrivent ainsi les auteurs. Une autre propriété intéressante des saponines réside dans leur capacité à former spontanément des structures appelées micelles ou à s'intégrer à des structures, les liposomes, qui transportent des substances à travers l'organisme. Cela pourrait permettre, dans des travaux futurs, d'améliorer encore davantage leur efficacité contre le VIH, notamment en facilitant leur ciblage vers les cellules touchées par le virus. De plus, ajoutent les chercheurs, comme les saponines interfèrent avec une voie que plusieurs agents infectieux, et non seulement le VIH, utilisent pour infiltrer les cellules humaines, ils étudient actuellement l'activité inhibitrice des saponines contre d'autres agents pathogènes, comme la fièvre hémorragique Ebola, la fièvre dengue et même le SARS-CoV-2. Les propriétés antivirales de l'acide bétulinique sont connues depuis longtemps, mais son utilisation était limitée par le fait que la molécule est essentiellement impossible à dissoudre dans l'eau, ce qui rend son administration difficile en médecine. Les travaux du professeur Gauthier et de ses collègues pourraient permettre de surmonter cet obstacle. Et puisqu'on retrouve de l'acide bétulinique en grande quantité dans l'écorce de bouleau, on pourrait envisager une nouvelle valorisation de ce résidu courant de l'industrie forestière. « On ne sait pas quoi faire de ces écorces-là », a dit le professeur Gauthier, qui est également membre de l'unité mixte de recherche INRS-UQAC en santé durable. « On en fait des panneaux, on les fait brûler. Donc, on pourrait utiliser des résidus d'écorce, isoler ces molécules, ajouter le sucre de type Lewis et générer ces molécules » qui pourrait prévenir l'apparition du virus du sida. Ces travaux pourraient ne représenter que la pointe de l'iceberg, a ajouté le professeur Gauthier, puisqu'il y a des raisons de croire que l'ajout du sucre de type Lewis X à d'autres molécules qu'on retrouve dans la nature pourrait mener au développement d'encore plus de produits aux propriétés intéressantes, comme des adjuvants vaccinaux. Tout ça met en lumière la richesse inimaginable de la nature qui nous entoure et prouve qu'elle recèle encore des surprises au potentiel révolutionnaire, On travaille, par exemple, sur des fruits de la forêt québécoise qui n'ont jamais été étudiés, a confié le professeur Gauthier. On étudie ça et on tombe sur des molécules qui pourraient révolutionner les traitements antibiotiques. Mais ça, ça sera pour une prochaine publication. Les conclusions de ces travaux ont été publiées par la revue scientifique Chemistry, European Journal, et seront présentées sous peu dans le cadre de congrès scientifiques en Pologne. C'était une molécule extraite du bouleau pourrait bloquer le VIH, l'Ebola et la dengue. Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 3 juillet 2025 dans La Presse.
Le retour de la rage cause une interdiction de déplacer les ratons laveurs. Un texte de Axel Dansereau-Massias, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. La propagation de la rage du raton laveur inquiète en Estrie et en Montérégie. Avec 31 cas de cette maladie mortelle détectée au Québec cette année, il est maintenant interdit de déplacer un raton laveur dans une centaine de municipalités ciblées. Plus du tiers des cas ont été signalés à Saint-Armand, en Estrie, à quelques kilomètres de la frontière avec les États-Unis. D'autres cas ont été détectés, notamment à Notre-Dame de Stanbridge et à Venise, au Québec, en Montérégie. Il faut remonter à 2006 pour observer un foyer épidémique de rage similaire qui avait duré jusqu'en 2009 pour un total de 104 cas en 3 ans. Les mouffettes rayées, renards gris, renards roux et coyotes sont aussi visés par la nouvelle directive du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, mise en place depuis le 18 juin et en vigueur jusqu'au 17 août. Que l'animal soit orphelin, blessé ou dérangeant, toute situation tombe sous l'interdiction de déplacement, tant qu'il est vivant. Peu importe d'où vient le raton et où on veut l'amener, c'est interdit de le déplacer si vous êtes sur le territoire ciblé, explique Marianne Gagné, biologiste et coordonnatrice provinciale de la gestion de la rage au sein du MELCCFP. Même blessé, il faut le laisser sur place. C'est mieux de laisser la nature suivre son cours, explique la biologiste. Ce sont les agents de protection de la faune présents sur le territoire qui superviseront durant l'été le maintien de l'interdiction. Des services limités. Ça nous affecte beaucoup, lâche Pierre Bourbonnais, directeur général de la SPCA Roussillon, qui dessert une bonne partie de la région ciblée. L'organisme de prévention de la cruauté envers les animaux se voit interdire la pratique d'une importante partie de ses services, soit le déplacement des animaux de la faune, qui fait partie intégrante de sa mission. Le directeur estime qu'une grande partie des appels habituels sont liés à des animaux problématiques, comme des ratons laveurs, sur les terrains des habitants de la région. La SPCA Roussillon offre donc un service d'urgence 24 heures sur 24 pour déplacer les différents mammifères, une assistance maintenant interdite. Pour ces cas-là, maintenant, on peut juste diriger les gens vers le ministère de l'Environnement, déplore-t-il. Le MELCCFP autorise l'euthanasie en cas de dernier recours, une option possible mais complexe à mettre en place, selon M. Bourbonnais. En temps normal, un animal en détresse est capturé puis amené dans un centre de rétablissement accrédité par le gouvernement. La SPCA peut toujours intervenir pour aider un animal coincé ou enfermé, mais reste dans l'obligation de le laisser sur le terrain où il se trouve. La SPCA de Roussillon a les mains liées jusqu'à la mi-août, mais pourra se doter d'un permis spécial si l'interdiction finit par être prolongée. Selon le directeur général, il est encore trop tôt pour parler d'une inquiétude citoyenne, mais certains craignent pour leurs animaux de compagnie. Marianne Gagné souligne que le déplacement ne devrait pas être un réflexe pour les personnes aux prises avec des animaux problématiques. Les recommandations que l'on donne, c'est de limiter les sources de nourriture et d'abri. Elle déconseille de laisser des ordures ménagères accessibles, de nourrir les chats à l'extérieur et d'avoir un compost non sécurisé. La biologiste rappelle l'importance de ne pas capturer puis de déplacer un raton laveur, même si c'est sur 5 ou 10 kilomètres. Le risque étant de propager la rage dans des zones non contrôlées où aucune vaccination n'a été faite sur les animaux sauvages. Une vaccination de masse. Le contrôle de la maladie se fait avec des appâts vaccinaux. Ces capsules kaki à l'allure de cachets de ketchup sont dispersées par milliers dans les zones à risque, une méthode qui a fait ses preuves avant d'être arrêtée en 2020, puisque les seuls cas se situaient à des centaines de kilomètres du Québec. Une première vague d'appâts vaccinaux a été dispersée en avril 2025 et une deuxième opération de plus grande envergure aura lieu en août 2025, souligne Marianne Gagné. La situation actuelle est surveillée depuis plusieurs années par l'équipe de gestion de l'arrache du MEL-CCFP. Les cas qui ont alerté l'équipe de gestion de l'arrache ont été détectés depuis le Vermont aux États-Unis et expliquent l'arrivée de la maladie au Québec. Malgré les premiers vaccins déposés, la biologiste s'attend à dénombrer encore plus de cas dans les prochains mois. Ça prend quelques années pour bâtir une immunité, explique-t-elle. Avec la résurgence de la maladie, la biologiste observe une bonne participation citoyenne. Les deux tiers des cas confirmés, actuels, proviennent de signalements citoyens, indique-t-elle avec optimisme. Qu'est-ce que la rage? La rage est un virus qui se transmet par la salive des mammifères infectés. Il n'existe pas de remède à cette maladie fatale. Une personne qui consulte rapidement un médecin à la suite d'une blessure peut toutefois recevoir le traitement approprié et s'en sortir. L'Institut national de santé publique du Québec possède une carte des zones à risque pour indiquer au médecin si une personne qui se présente avec une morsure animale doit être vaccinée contre la rage. Différents types de rage existent selon l'animal porteur, comme la rage de la chauve-souris, du renard arctique ou du raton laveur. Si vous voyez un animal mort ou qui a des comportements agressifs, vous pouvez le signaler au 1-877-346-6763. C'était « Le retour de la rage cause une interdiction de déplacer les ratons laveurs », un texte de Axel Dansereau-Massias paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.